François Heilbronn, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po. Alors nous sommes à un peu moins de deux semaines, pratiquement 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 10 avril prochain. François Heilbronn, selon les dernières projections des instituts de sondage, le président candidat Emmanuel Macron obtiendrait 28% des intentions de vote, Marine Le Pen du Rassemblement National 20%, L'insoumis Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 15%. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont autour de 10%. Et puis les autres candidats aussi entre 5 et 2%. Alors un mot tout d'abord sur cette campagne que d'aucuns accusent de ne pas en être une, faute de débat.
C'est pas faute de débat, c'est parce qu'il y a des débats, ils sont des débats pas frontaux. Il y a eu quelques débats frontaux, Zemmour-Mélenchon... Le Pen avec d'autres, etc. Mais ce n'était pas vraiment des débats frontaux, mais il y a quand même des débats, il y a des présentations des programmes, il y a des présentations des candidats, mais effectivement, le problème toujours des présidentielles en France, c'est que 12 candidats, ce n'est pas audible. Et d'ailleurs, à juste titre, TF1, quand on a voulu les entendre, il a entendu que 8, qui étaient les 8 candidats principaux. Mais avec les temps de parole, bah, on laisse du temps à Dupont-Aignan, on laisse du temps à Jean Lassalle, et ce n'est pas des sujets intéressants, parce que c'est des candidats qui ne vont évidemment pas dépasser les 2%. Ce qui est problématique aussi, c'est qu'effectivement, avec la guerre en Ukraine, le président Macron a été, à juste titre, très mobilisé par ça, et il n'est pas vraiment rentré en campagne. Et d'ailleurs, je pense qu'il en pâtit et qu'il prend des risques, certains, on y reviendra peut-être plus tard. Et que, très bizarrement, Éric Zemmour s'est déconsidéré, à juste titre, comme Mélenchon, mais Mélenchon n'en souffre pas. Éric Zemmour s'est déconsidéré par son soutien à la Russie de Poutine depuis de très nombreuses années, et avec un discours très ferme et très favorable à Poutine, même Poutine personnellement. Et il en pâtit, il est tombé à 10%, et cette chute de Zemmour a permis de favoriser la remontée de Marine Le Pen, et vous avez annoncé d'ailleurs que Marine Le Pen était à 20%, vous avez raison, ça c'était le sondage d'hier, et un sondage d'aujourd'hui que BFM vient de sortir, où Marine Le Pen, qui est un sondage, je vérifie l'Institut, qui est un sondage fait avec l'Express et le cabinet Elab, et Marine Le Pen est en train de remonter à 21%. Et donc, il y a une dynamique positive chez Marine Le Pen, il y a aussi une dynamique positive chez Jean-Luc Mélenchon qui absorbe un peu les voix de la gauche, où les gens se disent, à juste titre, pourquoi voter Roussel, Hidalgo, si on est de gauche, il n'y a aucune chance qu'il soit au deuxième tour. Votons pour Mélenchon. Et il y a ce phénomène classique de, à quelques jours des élections, il faut rappeler que dans nos auditeurs, que dans 10 jours, nous votons pour le premier tour, bah, les gens, ils précisent leur choix, et si idéologiquement ils sont pas très loin, si l'électeur de Fabien Roussel n'est pas très loin de Jean-Luc Mélenchon, bah, il va se dire bah, mon vote est plus utile pour Mélenchon, et l'électeur d'extrême droite, plutôt que voter une candidature protestataire comme celle de Zemmour, voter pour Marine Le Pen, c'est peut-être plus efficace, et donc ça fait remonter Marine Le Pen. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que Emmanuel Macron, lui baisse, il n'est plus qu'à 28,1% d'intention de vote, et moi je suis assez inquiet pour les scénarios du deuxième tour, mais je pense qu'on va y revenir.
Oui, alors justement, même si on sait que les sondages peuvent se tromper, finalement, que vous inspirent les dernières tendances de ces sondages, et puis surtout, comment va s'opérer ce fameux report des voix ?
En fait, je suis très inquiet. Depuis quelques semaines, je suis très inquiet à voir l'évolution, très positive de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, et l'autre, un peu la stagnation d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a plutôt pas vraiment réussi son entrée en campagne, phagocyté par, évidemment, le temps qu'il passe, à juste titre, sur le conflit aux portes de l'Europe, et même en Europe, entre la Russie qui a agressé l'Ukraine. Et puis, l'impression qu'il donne aussi de vouloir enjamber la présidentielle, de ne pas vouloir faire campagne pour le premier tour, pour se préparer pour le deuxième tour, et ce qui, à mon avis, ça est une erreur. Si c'est ce qu'il fait, c'est une erreur tactique et stratégique importante, parce qu'il faut, il faut pas ignorer l'électorat, il faut faire campagne, même si on a une crise internationale majeure. Alors, si vous regardez les chiffres que vous avez donnés pour le premier tour, ce qui est un peu inquiétant, c'est que pour le deuxième tour, moi, je ne vois pas. Je vois où Marine Le Pen a des réserves de voix, et je ne vois pas où Emmanuel Macron en a beaucoup. Et d'ailleurs, le sondage que je viens de vous citer d'Elab, qui est du sondage du 30 mars, donc d'aujourd'hui, donne un deuxième tour où Emmanuel Macron est à 52,5 et Marine Le Pen est à 47,5. Donc l'écart s'est énormément réduit. Il y a quelques mois, c'était 60-40. il y a quelques semaines, c'était 58-42 ou 55-45. Là, on est à 52,5-47,5, sachant que la marge d'erreur sur ce type de sondage est de 2%. Eh ben, on est déjà dans une situation où Marine Le Pen peut être en phase de l'emporter. Et si on regarde le détail des voix au premier tour, c'est assez logique, puisque comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron est donné à 28%, Marine Le Pen est donnée à 20 ou 21%, Éric Zemmour est donné à 10 ou 10,5%. Donc déjà, c'est évident qu'un deuxième tour, Marine Le Pen-Macron, l'électorat Éric Zemmour, il va voter Marine Le Pen, il ne va pas voter Emmanuel Macron, ou il va s'abstenir. Dans l'électorat Mélenchon, on le sait, il y a énormément de proximité entre l'électorat de Mélenchon et de Marine Le Pen. Donc c'est les 15% de Mélenchon, il y a sûrement 5-6% qui vont aller voter Marine Le Pen. Les autres, ils vont s'abstenir. Ils ne vont pas aller voter Macron, ils détestent Macron. Dans l'électorat Pécresse, qui est donné à 11%, il y en a quelques-uns qui voteront Marine Le Pen, il y en a quelques-uns qui voteront Macron, et d'autres qui s'abstiendront. Et à gauche, les réservoirs de voix ne sont pas évidents, parce que là aussi, il y a une volonté abstentionniste en disant « on va pas nous refaire le cours de Chirac-Le Pen de 2002, on va pas nous refaire le cours de Macron-Le Pen de 2002, on va pas aller voter pour le candidat qui considère de droite Chirac en 2002 ou Macron en 2022. » Et donc, il peut y avoir beaucoup d'abstention. Donc, le phénomène d'abstention fait que aujourd'hui Macron est à 28%, mais Le Pen, mécaniquement, avec les voix reportables de Zemmour et un peu de Mélenchon et un peu de Pécresse, est plutôt à 35%. Donc, si les autres sont abstentionnistes, bah, Marine Le Pen est élue. Donc, je veux vraiment alerter nos auditeurs sur le risque pour la démocratie française d'une victoire de Marine Le Pen, qui était impossible il y a quelques années, qui était impossible en 2017, on l'a bien vu, parce que c'est pas une candidate avec un programme sérieux et crédible. Mais aujourd'hui, du fait du ressentiment de nombreux Français, de la réaction de nombreux Français, de la souffrance de nombreux Français face au Covid, face aux problèmes de pouvoir d'achat, face à la reprise de l'inflation, face aux menaces qui pèsent à nos frontières, ben, un vote protestataire contre Macron et un vote utile pour Marine Le Pen peut la propulser vers une victoire, et ce qui serait évidemment une catastrophe pour la France et une catastrophe pour les Français juifs.
Alors, justement, plus d'abattage rituel pour le Rassemblement national, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui l'a annoncé, au nom de la souffrance animale, et plus d'importation de viande cachère ou halal, un ministère de la remigration pour reconquête d'Éric Zemmour, et le candidat de la France insoumise propose, lui, d'interdire tous les financements publics d'édifices religieux, d'activités culturelles et d'établissements confessionnels. Il veut aussi interdire aux élus, ministres et préfets d'assister à des cérémonies religieuses au titre de leur fonction. Vous pensez quoi de ces prises de position ?
Elles sont logiques. Elles sont logiques par rapport aux partis dont ils sont issus, les idéologies qui sont issues. Il faut se rappeler que le Rassemblement national a été fondé en 1972 par d'anciens miliciens Waffen-SS, d'anciens collabos, d'anciens partisans de Pétain, et qu'ils ont propulsé un jeune député fasciste d'extrême droite qui aimait faire le coup de poing dans le quartier latin dans les années 50 et aller se parader en officier parachutiste en Indochine ou en Algérie, Jean-Marie Le Pen comme leur porte-parole. Et ce parti est resté de manière structurelle et endémique, un parti fasciste, raciste et antisémite. Il ne faut pas se leurrer, même si Marine Le Pen a eu l'intelligence de s'éloigner des positions pro-vichistes de son père, et a très peu de fois, sauf une fois elle a dérapé face à Guillaume Durand à la télé sur les Juifs, elle a toujours évité ce sujet, mais elle est quand même à la tête d'un parti où plus de 50% de son électorat développe des opinions antisémites virulentes, et même il y a eu une enquête faite par Fondapol, la Fondation des Initiatives Politiques, en 2014, qui a été refaite en 2018, auprès d'un certain nombre d'électorats, et notamment, ils ont regardé l'électorat d'extrême droite du Front National, ils ont regardé l'électorat d'extrême gauche de France Insoumise, et ils ont regardé l'électorat musulman. Et en fait, il y avait plus d'antisémites dans l'électorat du Front National qu'au sein de la population musulmane. On était plutôt à 60% de Français votant Front National avec des opinions antisémites très fortes, là où chez les musulmans, ceux qui exprimaient des opinions antisémites très fortes, c'était de l'ordre de 50%. Donc il ne faut pas se leurrer, le Front National est une vraie menace pour les Français juifs dans la pratique de leur religion, comme vous l'avez rappelé, sur la cacheroute, sur le financement des lieux de culte, sur le financement des activités culturelles juives. C'est un vrai problème, et Jean-Luc Mélenchon, on le sait, a eu des débordements antisémites fréquents de 2014 à nos jours, aussi bien sur la France, sur Israël, que sur même la défaite de Corbyn en Angleterre, où l'accuser, le lobby juif, d'avoir causé cette soirée. Il y a un front antisémite du Front National à la France Insoumise. Dans la même étude de Fondapol, la France Insoumise, le taux d'antisémitisme était d'un tiers. Donc c'est une vraie menace. Et Éric Zemmour aussi, bien qu'il soit juif, et à force de se droitiser et de tenir un discours de plus en plus radical, dans un récent sondage aussi, on voyait qu'au sein de l'électorat Zemmour, c'est aussi là où il y a le plus antisémites. Alors évidemment, ils sont heureux, parce qu'ils ont un juif qui dit des horreurs sur Dreyfus, sur la nature criminelle du régime de Vichy à l'égard des Français juifs, et qui aussi essaye d'absoudre tous les crimes de la France à l'égard des minorités. Et donc ce discours plaît encore plus puisqu'il vient d'un juif pour ces antisémites radicaux. Donc on est dans une situation très malsaine où je pense qu'il faut vraiment que les Français juifs qui nous écoutent et qui se mobilisent, je ne vais pas donner de consigne de vote, mais se mobilisent pour les candidats républicains qui sont tous les autres, à part évidemment Le Pen, Zemmour et Mélenchon, et pour que les candidats républicains aient le plus de voix possible, et peut-être qu'on évite un deuxième tour Macron-Le Pen ou Macron-Mélenchon ou Macron-Zemmour, parce que moi j'aurais aimé, en bon démocrate, avoir un deuxième tour Macron-Pécresse ou Macron, quelqu'un de gauche responsable, mais au moins qu'il y ait un débat démocratique de gens qui ont des valeurs républicaines, des valeurs universelles, des valeurs pro-européennes et qui ne sont pas des affidés des dictateurs de la planète et qu'on ne soit pas les poupées russes qu'on a avec Mélenchon, Le Pen et Zemmour. Mmh.
Malheureusement, on est pris pour le temps, par le temps, mais il y a une autre élection aussi qui se profile, ça va être les élections législatives, et là, la question va se poser de savoir si l'Assemblée sera gouvernable, parce que les dernières projections au niveau des députés, n'est pas là encore très réjouissante, en tout cas au niveau, de la vivacité de la démocratie française.
Tout à fait, tout à fait. Et le fait que beaucoup des députés qui ont été élus En Marche il y a 5 ans se sont révélés d'un très mauvais niveau parce qu'ils ont été choisis sur des critères quand même assez aléatoires ne renforce pas ça. Et donc effectivement, il y aura, quelle que soit en fait la victoire, que ce soit la victoire d'Emmanuel Macron ou de quelqu'un d'autre, il y aura forcément des négociations et des coalitions à former, un peu comme on va retrouver un peu ce qu'on avait sous la 4e République ou sous la 3e, ça fonctionnait pas mal d'ailleurs, ce sera des négociations de coalition, et donc il n'y aura pas forcément un parti dominant majoritaire, ce sera peut-être mieux pour la démocratie parlementaire de notre pays. Donc ça c'est pas mon inquiétude. Mon inquiétude vraiment ce soir, c'est que je sens Marine Le Pen monter très fortement et avoir une possibilité de report de voix très favorable, donc il faut que tous les républicains et démocrates qui sont contre la victoire d'une fasciste à cette élection, se mobilisent, ne soient pas abstentionnistes, aillent voter pour qui veulent, mais pour des candidats républicains. Et c'est le résumé de mon message de ce soir.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.